invité du grand entretien de France Inter ce matin, le ministre de l'économie et des finances. Il publie Paul, un récit qui paraît chez Gallimard. Bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour Ali Badou.
Alexandra Ben Saïd et moi avons lu de près ce livre. Paul, c'est le récit d'une amitié absolue, celle avec votre ami Paul, emporté par un cancer foudroyant. Lui est cloué sur un lit d'hôpital. Vous, vous êtes toujours en mouvement, en voiture, en avion. C'est un livre où se croisent l'actualité des questions politiques, dont on va parler évidemment, mais aussi des questions plus intimes, les plus personnelles de ces questions, celles qu'on se pose quand on est confronté à la mort d'un proche. Pourquoi le besoin d'avoir écrit ce livre-là, Bruno Le Maire ?
Pour moi, c'était une nécessité absolue. J'ai pas de réponse à votre question, pour être très franc. Mais j'ai perdu cet ami au printemps dernier et j'ai ressenti comme une nécessité absolue de témoigner sur la dignité de cet homme face à la maladie, face à ses derniers instants. Donc j'ai écrit ce livre tout simplement parce qu'il était nécessaire.
On va en parler justement parce qu'il y a énormément d'émotions dans ce livre, Alexandra, mais d'un mot quand même, parce qu'un livre de politique, ça ressemble en général à une biographie d'un grand homme auquel on s'identifie. Ça ressemble parfois à un bouquin écrit par d'autres que soi. Ça ressemble aussi parfois à des livres de programme. Ça n'est aucun de ces livres-là.
Non, aucun de ces livres-là.
Vous comprenez que ça déroute, et surtout la tonalité intime, très personnelle, à un moment où on est face à des défis collectifs.
Oui, mais les défis collectifs, vous ne les réglerez pas autrement qu'avec de l'humanité. Vous ne réglerez pas la crise sociale actuelle sans comprendre le désarroi, la détresse des Français qui se manifestent. Je pense qu'on a besoin de cette humanité, on a besoin de cette sensibilité. On écrit beaucoup sur les grands hommes, je pense que c'est utile aussi d'écrire sur les hommes bien. Et Paul était un homme bien.
Bruno Le Maire, vous parlez d'humanité. Quand vous allez rendre visite à votre ami à l'hôpital, vous croisez aussi du personnel soignant. Et ce personnel soignant dit justement qu'il a besoin d'argent. Ce personnel soignant le dit à votre ami. Et ce qui est surprenant, vous êtes là entre cette question intime et vous êtes ce ministre de l'économie, c'est que vous n'en tirez pas de conclusion politique. Vous ne dites pas, ben oui, tiens, il faudrait peut-être mettre plus d'argent dans l'hôpital public.
Je ne suis pas allé à l'hôpital pour faire de la politique, mais je peux témoigner.
Elles
m'ont interpellé et je peux témoigner de ce que chaque Français sait, c'est-à-dire la qualité exceptionnelle du personnel hospitalier, des aides-soignants, des infirmiers, des médecins, des anesthésistes, enfin de tous ceux qui font la vie de l'hôpital.
Mais vous ne répondez pas à la seule question que vous posent les infirmières qui vous le demandent.
Mais on a eu des débats, vous savez, on a eu des débats avec les infirmières à l'hôpital, de la Pitié-Salpêtrière, pour être très précis, sur l'application des 35 heures, sur le désordre considérable qu'a créé l'application des 35 heures dans l'hôpital, sur les conditions de vie qui sont très difficiles des personnels soignants, les exigences que leur sont données.
Vous êtes l'acteur.
Je ne suis pas ministre de la Santé. Mais je peux vous dire que ça fait partie des discussions.
De l'économie.
Ça fait partie des discussions que j'ai régulièrement avec la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.
Mais c'est vous qui tenez les cordons de la bourse, donc pas de question.
Je suis ouvert à toute discussion sur le meilleur financement de l'hôpital, sur son organisation. Je pense que c'est au cœur du contrat social français. Et une fois encore, ça fait partie des décisions que nous avons à prendre avec la ministre de la Santé et des discussions que nous avons régulièrement avec elle. En tout cas, si on peut rendre un hommage, appuyer ce personnel hospitalier, faisons-le.
Ce que vous faites, vous racontez aussi la fin de vie, la douleur, la morphine qu'on réserve pour la fin, la toute fin, les derniers moments d'un ami qui va mourir. Est-ce qu'il faut autoriser, là aussi on a envie de vous demander quelle conclusion politique vous en tirez, Bruno Le Maire, est-ce qu'il faut autoriser l'aide à mourir pour les personnes atteintes d'une maladie incurable, comme ça a été le cas pour votre ami Paul ?
Je trouve que c'est une question qui se pose.
Mais vous êtes responsable politique, vous avez des convictions.
Mais j'ai des convictions, mais je n'ai pas de réponse à toutes mes propres questions. Et je pense que c'est la réalité aussi pour d'autres citoyens. La première conviction, c'est que chaque Français a le droit de mourir dans la dignité. Et que chaque Français doit avoir accès à une unité de soins palliatifs de la qualité de celle à laquelle mon ami Paul a eu accès. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et je pense que le premier défi, c'est ça, c'est garantir à chaque Français de pouvoir mourir dans la dignité avec une unité de soins palliatifs qui soit appropriée à la situation dans laquelle
mourir,
il est.
Est-ce qu'il faut modifier la loi Claeys-Leonetti ?
Et je n'ai pas, là encore, je vais peut-être vous décevoir, on parlera de sujets sur lesquels j'ai des convictions fortes et fermes, mais sur cette question de l'aide à mourir, laissez-moi poursuivre poursuivre ma réflexion. Mais je referme aucune porte là-dessus.
En politique, rien ne sert d'anticiper les surprises. C'est aussi quelque chose qu'on découvre dans votre livre. C'est votre analyse de la vie politique. On découvre que vos enfants jouent à des jeux vidéo ultra violents. Et alors, vous comparez la politique justement à ces jeux vidéo qui nécessitent une attention de tous les instants. Quand il faut brandir son sabre ou tirer au M16 sur son ennemi. Comment expliquez-vous que vous n'ayez pas vu arriver la crise des gilets jaunes? Est-ce que c'est uniquement une faute d'attention?
Non, moi je pense que c'est une crise qui couve depuis très longtemps et dont il faut prendre toute la mesure.
Mais vous ne l'avez
c'est
pas
une
vu
crise,
venir.
Je ne vais pas dire que j'ai vu venir la crise des gilets jaunes.
Mais ni vous ni le président de la République, expliquez-nous.
Un malaise dans le pays.
Non, ça,
que chacun ait senti depuis très longtemps que, en matière de pouvoir d'achat, de rémunération du travail, il y avait une vraie difficulté. Nous le savions. D'ailleurs, nous avons apporté des réponses.
Non, mais je vous
prends
au mot, Bruno Le Maire.
Mais la crise, vous la voyez jamais venir. Personne n'a vu cette explosion venir tout d'un coup du jour au lendemain.
Et donc la question, c'est pourquoi? Est-ce que c'est de la déconnexion ou est-ce
Absolument
que c'est de l'inattention?
Pas, puisque les problèmes que posent les gilets jaunes. Nous avons essayé d'y apporter des solutions et nous y avons apporté des premières solutions. Qu'elles soient pas assez rapides, que les gens ne voient pas les résultats suffisamment rapidement, peut-être. Mais regardez cette question de la rémunération du travail qui est au cœur des revendications de beaucoup de gilets jaunes, en mettant en place les heures supplémentaires, en supprimant les cotisations assurance maladie, assurance chômage, en permettant la suppression du forfait social à 20% dès le 1er janvier pour qu'il y ait de l'intéressement pour tous ceux qui travaillent, nous avons commencé à apporter une réponse. Ensuite, l'impatience, elle est telle que ça provoque cette crise et ça provoque cette réaction des gilets jaunes. Mais je pense que nous avions vu venir les difficultés et que nous avons été, comme cela peut arriver, pris de vitesse par un mouvement qui a pris tous les Français.
Vous n'avez pas peur, Bruno Le Maire, vous venez de parler des mesures pour le pouvoir d'achat, mesures à 10 milliards, on sait que vous étiez contre, ça grève le budget de l'État, ça fait des rappels de déficit. Vous n'avez pas peur que ces mesures-là, elles soient complètement effacées dans l'esprit des Français par le prélèvement à la source?
D'abord, je n'étais pas contre. Moi, je suis pour que nous ayons des réponses qui soient fortes. Elles ont été apportées par le président de la République. Mais aussi des réponses cohérentes par rapport à notre politique. Et ce que le président de la République a annoncé, ce que le Premier ministre a précisé, est cohérent par rapport à tout ce que nous avons toujours défendu. Il faut que le travail paye. Nous avons fait en sorte que le travail paye et qu'il paye davantage avec les heures supplémentaires.
C'est cohérent de revenir avec sur l'annulation de la CSG. Ça n'est pas cohérent de revenir sur l'annulation de la CSG.
C'est une manière de dire que nous entendons ce qui a été dit par les retraités. Vous avez plus de 3 millions de retraités qui, du coup, ne seront pas touchés par la hausse de la CSG. Mais la direction qui est la nôtre, celle de la transformation en profondeur du pays, qui doit créer plus de richesses pour avoir plus de prospérité pour tous les Français, il est impératif de tenir ce cap. La bonne tenue des finances publiques, le respect de nos engagements européens, il est essentiel de continuer à tenir ce cap parce que si la bonne réponse à la crise sociale française, c'était toujours plus de dépenses publiques. Comme on a le niveau de dépenses
vous
publiques,
voyez que vous avez répondu
le plus
aux
élevé,
infirmières.
Le plus élevé.
Vous voyez que vous répondez au personnel
hospitalier. Absolument pas, Libadou,
Pas
plus de dépenses publiques, ça veut pouvoir dire de la dépense publique mieux employée. Ça veut vouloir dire faire des économies à tel endroit pour pouvoir aider d'autres services publics. Et justement, le débat, Libadou, que nous allons avoir, qui va s'ouvrir dans les prochaines semaines, il va nous permettre enfin, et moi je m'en réjouis, de poser ces questions. Vous, Français, quelles dépenses publiques êtes-vous prêtes à réduire pour que nous puissions demain baisser les impôts, baisser les taxes et aider davantage certains services publics qui vous paraissent prioritaires par rapport à d'autres?
Page 100 de votre livre, vous écrivez, c'est un livre que vous venez d'écrire, hein, vous écrivez « Le plus difficile est devant nous, les mesures les plus impopulaires restent à prendre ». Vous parlez de quoi?
C'est ce que je crois. Je crois que l'année 2019 sera l'année des choix
Des mesures
décisifs.
Les plus impopulaires?
Mais ce n'est pas une question de populaire ou impopulaire,
c'est
de savoir ce que nous voulons pour la France.
Le plus difficile
l'année
est devant
2019,
nous. Les mesures les plus impopulaires, ce sont vos mots.
L'année 2019 doit être l'année des choix décisifs pour notre pays.
De quelles mesures parlez-vous?
Quelles dépenses publiques sommes-nous prêts à réduire pour pouvoir enfin réduire significativement les impôts et les taxes des Français? Comment est-ce que nous garantissons un système de retraite par répartition? qui soit plus juste, plus transparent, plus lisible, plus efficace pour les Français. Ben, les réponses, c'est la réponse
des
retraites.
Quelle dépense publique faut-il ?
La réponse, c'est la réforme de l'indemnisation du chômage. La réponse, c'est le débat qui va la porter sur la dépense publique qui va nous permettre de baisser les impôts et les taxes. Mais oui, les choix décisifs sont devant nous. Quel modèle de société voulons-nous ? Quel niveau de dépense publique acceptons-nous pour pouvoir réduire les impôts et les taxes ? C'est pour ça que je le redis, l'année 2019 sera l'année des choix décisifs pour la France, mais
et
aussi pour l'Union, mais
aussi,
si vous me permettez, aussi pour l'Union européenne, puisque nous avons devant nous l'un des choix les plus essentiels pour la construction européenne depuis 1957. Est-ce que nous nous rassemblons ou est-ce que nous nous divisons ?
On va rester sur la réforme des retraites, de l'assurance chômage, de la fonction publique. Ce que vous dites, on croyait que les choix avaient été faits. On croyait qu'Emmanuel Macron et son gouvernement avaient une idée très précise de ce qui devait être fait. Est-ce que vous dites ce matin, c'est bon, on a entendu, maintenant c'est aux mains des Français, il va y avoir ce grand débat national et ils pourront infléchir les choix qui ont déjà été faits et présentés ?
Je dis simplement que nous avons, en 2017 et 2018, engagé une transformation en profondeur du pays. Fait des choix qui étaient des choix difficiles, courageux, nécessaires. Je pense à la transformation du système fiscal. Je pense à la transformation du marché et du travail.
Ne refaites pas le bilan.
Et il reste devant. Mais c'est pas le bilan, c'est la narration.
C'est un bilan que vous étiez en train
de
faire.
C'est la narration d'un quinquennat qui a du sens et dont le sens doit être la transformation d'un
et
modèle
dont certains se
qui ne marche
s'il n'est
plus,
pas terminé, Bruno
qui crée
le Maire.
De la pauvreté et qui doit demain créer de la prospérité.
Allez-vous encore pouvoir engager des réformes
si je vous
jugées
dis,
impopulaires ?
Si je vous dis, Ali Badou, qu'il y a des choix décisifs devant nous, c'est parce que je crois profondément que le quinquennat commence à partir de maintenant à entrer véritablement dans le dur, que nous avons un socle qui est solide, qui sont toutes les réformes que nous avons engagées depuis 2017 et 2018 sur la fiscalité, sur le marché du travail, sur la formation, la qualification, la réforme de la SNCF. Nous avons ce socle. Et maintenant, il faut avancer et avancer encore plus vite sur des sujets qui sont décisifs pour notre avenir collectif, notre système de retraite, l'indemnisation du chômage et un État qui doit être plus efficace au service des Français. C'est ça ce qui nous attend en 2019.
Et quelle sera la place et le poids de la voix des Français qui s'exprimeront dans le grand débat national ? Ces choix, à qui appartiennent-ils ? On ne fait pas un débat pour ne pas l'écouter ensuite.
Mais les choix, ils appartiennent aux Français par définition. Ils ont fait un certain nombre de choix au moment de l'élection présidentielle. Ces choix, et je pense que c'est l'honneur du président de la République et du Premier ministre, nous les respectons. Et tout ce qui a été décidé depuis 2 ans ou 1 an et demi correspond rigoureusement à ce que les Français ont voulu et choisi au moment de l'élection présidentielle.
Mais il y a des choses bien, qui se sont
mais
passées
on voit bien,
depuis
on voit bien
le mouvement
désormais
des Gilets jaunes.
Que
Est-ce
le temps,
que par exemple
que le temps politique
référendum d'initiative
Ali Badou,
citoyenne...
Le temps politique est trop long. Donc il faut des moments de respiration au sein du quinquennat pour permettre aux Français de reprendre la parole. C'est ce que nous faisons avec ce débat.
Et ce
que je souhaite, c'est que sorte de ce débat une volonté renouvelée de transformer notre pays en profondeur, parce que c'est ce qui permettra aux Français de vivre mieux.
Voilà,
c'est ce qui leur permettra d'être mieux rémunérés de leur travail, et c'est ce qui leur permettra d'avoir une société qui soit plus juste.
Question rapide. Vous rendez hommage au général de Gaulle dans votre livre. Est-ce que le référendum d'initiative civique est compatible avec la Ve République ?
Oui. Le référendum, c'est la parole qui est donnée au peuple, et donc quelle que soit la façon dont on la donne au peuple, moi je suis favorable à ce référendum d'initiative civique.
Le référendum à choix multiples, est-ce que vous y êtes favorable ?
Et ça, on verra quelle sera l'issue du débat. Ne préjugeons pas de l'issue, ce sera au président de la République de le décider. Mais j'ai toujours considéré qu'il ne fallait pas avoir peur du peuple et que la meilleure réponse au nationalisme, au populisme que l'on dénonce ici ou là, elle tient à la force des réponses qu'on apporte aux problèmes que rencontrent les gens et le courage de donner la parole au peuple.
Est-ce qu'on a peur du peuple ? On apprenait qu'Éric Drouet, l'un des leaders des Gilets jaunes, avait été interpellé. Indignation, entre autres, de Jean-Luc Mélenchon, qui parle d'une opération de police politique. C'est par peur du peuple, ou en tout cas de certains parmi le peuple, que cette interpellation a eu lieu ?
Non, ça s'appelle le respect de l'état de droit. Et le respect du peuple, c'est respecter l'état de droit. Quand quelqu'un organise une manifestation alors qu'elle n'est pas déclarée, eh bien, il ne respecte pas le droit. On en tire les conséquences.
Mais il aurait dû être arrêté ou interpellé bien avant dans ces cas-là. Et d'autres avec lui.
Il a déjà
été
interpellé.
Et il n'y a pas assez de place dans les commissariats et les prisons pour interpeller tous ceux qui ont manifesté sans en avoir demandé l'autorisation.
Moi, je crois profondément au respect de l'ordre. Et je considère que la meilleure façon de défendre le peuple, c'est de défendre l'ordre, les règles, la loi, l'état de droit.
Sur les relations avec le peuple, Emmanuel Macron va perdre sa plume. Sylvain Faure, qui a écrit certains des plus beaux discours, notamment l'hommage à Arnaud Beltrame, c'est juste une question de communication, l'impopularité du président ?
Non, Sylvain Faure est un garçon exceptionnel. Je le connais bien. Mais le choix qu'il fait est un choix personnel.
Encore une démission, Bruno Le Maire, alors que c'était l'un des premiers à s'engager aux côtés d'Emmanuel Macron dès la campagne présidentielle.
C'est votre rôle de vouloir faire des tempêtes dans un verre d'eau, mais il se trouve que Sylvain Faure a dit depuis des mois qu'il attachait beaucoup d'importance à sa vie familiale et qu'à un moment ou un autre, il arrêterait.
Il l'a annoncé depuis des mois. Son rôle a été renforcé à l'été.
Il le fait. Et quelques mois plus tard, maintenant, il décide de partir. Pour des raisons personnelles, et je connais suffisamment Sylvain Faure, ses qualités et son don d'écriture, qui est un don tout à fait remarquable, pour savoir que s'il part, c'est tout simplement parce que, comme il le dit, il veut retrouver sa famille.
Comment va faire le président pour écrire sa lettre aux Français ?
Je peux comprendre ça parfaitement. Moi qui ai aussi des enfants, je peux comprendre ça parfaitement.
Seulement vous êtes resté en politique, mais ajoutez quand même à Nicolas Hulot, à Collomb, à Bayrou, à Flessel, et la liste est si longue de ceux qui ont dû quitter ou qui ont choisi de quitter
Vous mettez dans le même sac Emmanuel Macron. Des gens qui sont partis pour des raisons tout à fait différentes. En l'espèce, Sylvain Faure part pour des raisons personnelles. Et je connais suffisamment Sylvain Faure pour savoir que c'est d'abord sa famille et sa vie personnelle qui ont dicté ce choix.
Bruno Le Maire, on parle du contrôle des chômeurs, des réformes à venir, l'assurance chômage. Là, on a eu un décret le 30 décembre qui durcit les sanctions en cas du contrôle des chômeurs. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que vous comprenez l'indignation ?
Non, je ne la comprends pas parce qu'il n'y a pas de durcissement des règles. Il y a des règles qui sont plus justes et plus efficaces, qui sont personnalisées, qui tiennent compte de la situation de chaque chômeur. Il y a une immense majorité de chômeurs qui vont régulièrement pour l'emploi, qui recherchent un emploi. C'est l'immense majorité des chômeurs. Et puis, il y a une petite partie qui ne respecte pas nécessairement les règles. Certains parce qu'ils ne veulent pas les respecter, et d'autres parce qu'ils ne les connaissent même pas, parce qu'ils ne sont pas informés, parce qu'on ne leur a pas dit exactement ce qu'ils devaient faire. Le système qui est mis en place va permettre de tenir compte de la situation personnelle de chaque chômeur, de l'accompagner, de lui apporter des réponses, notamment sur son bilan de compétences.
Malgré tout, si jamais
il ne respecte pas les règles, alors qu'on a personnalisé l'accompagnement, il est juste que son indemnisation soit suspendu.
Mais une critique qui revient régulièrement,
il ne peut pas y avoir des droits s'il n'y a pas également des devoirs.
On est tous d'accord, mais on vous reproche souvent des 100 milliards d'euros de fraude fiscale par an, 1 milliard d'euros de fraude sociale.
Mais je suis Ali Badou tout aussi déterminé à lutter contre l'évasion fiscale. J'en fais la priorité de 2019. Et dans le cadre du G7 dont nous aurons la présidence, nous allons travailler à un impôt minimum qui va s'imposer à toutes les multinationales et qui prévoira qu'aucune multinationale ne pourra plus installer son siège social dans un paradis fiscal, là où l'impôt est moins faible, sans devoir compenser le manque à gagner pour le trésor public français. C'est un travail considérable que nous allons mener au niveau international pour garantir une meilleure efficacité dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Donc croyez-moi, notre détermination là-dessus, elle est totale.
Bruno Le Maire, quand même, sur les chômeurs, il n'y aura plus la référence au salaire antérieur. Ça sera difficile de refuser une offre d'emploi, puisque même si le salaire est inférieur, on dira, non, elle est raisonnable cette offre d'emploi. Vous ne pouvez
pas dire
que ça n'a pas été durci.
Vous pourriez insister d'un autre côté sur le fait que dans cette offre d'emploi raisonnable, qui est la clé de l'indemnisation du chômage, nous tiendrons davantage compte des compétences et de la situation personnelle de chaque chômeur. Là aussi, je crois que ce qui a été adopté est juste, équilibré et garantit l'efficacité du système.
La parole aux auditeurs, Bruno Le Maire. On file au standard retrouver Denis. Bonjour Denis.
Bonjour France Inter, merci de prendre ma question. J'ai une question toute simple à poser à Monsieur le ministre de l'économie et des finances, que je salue au passage sur votre antenne, pour lui dire ceci. Je suis jeune retraité, j'ai reçu ma retraite il y a un jour, ma retraite du mois précédent, c'est-à-dire au mois de décembre 2018, et je constate qu'on m'applique déjà, comme à des millions de retraités, le prélèvement à la source, alors que ça concerne des revenus 2018. Comment Monsieur Le Maire explique cette, entre guillemets, arnaque qui fait que tous les retraités de France vont être taxés du prélèvement à la source dès le mois de janvier 2019, alors qu'on devrait décalé d'un mois pour les retraités, puisqu'on va être imposé sur 13 mois. Je ne comprends pas cette chose-là, si ce n'est de penser, excusez-moi, que l'on prend les Français ou au mieux pour des ignorants, ou au pire pour des idiots. Mais je pense que, monsieur le maire, ne pratiquez pas une langue de bois, répondez-moi, est-ce que vous allez maintenir cette taxation sur voilà le mois de janvier? Merci.
Réponse Bruno Le Maire.
Denis, je connais cette question, elle est posée par beaucoup de retraités. Vous n'allez rien perdre dans le passage au prélèvement à la source. Vous serez imposé, vous avez dit, sur 13 mois. Non, vous serez imposé sur 12 mois. Simplement, il y a un mois de décalage qui se retrouvera aussi à la fin de l'année 2019. Mais vous resterez imposé sur 12 mois et pas sur 13. Et vous ne perdrez rien dans le passage au prélèvement à la source.
Question qui concerne les GAFA. Est-ce que les GAFA que vous voulez taxer, Bruno Le Maire, ne sont pas plus forts que des États? Comment est-ce que la France va s'y prendre alors qu'il n'y a pas de consensus en Europe pour taxer ces entreprises, ces géants du numérique, pour taxer ces entreprises tellement fortes qu'on ne sait plus comment aller récupérer ce qui est dû au trésor public français?
Bon, le vrai risque avait raison, c'est que demain, des entreprises deviennent plus puissantes que des États. Sauf qu'il y a une grande différence, c'est que les États, ils sont soumis au contrôle des citoyens et pas des entreprises. Donc il n'est pas acceptable que des entreprises aient demain plus de pouvoir que des États. Et il est encore moins acceptable que ceux qui font les profits les plus importants, ceux qui sont les plus riches, les Google, les Amazon, les Facebook, payent 14 points d'impôts de moins que n'importe quelle PME de n'importe quelle ville de France, d'Allemagne ou d'ailleurs. Donc nous mettrons en place, comme d'autres pays, l'Autriche vient de l'annoncer, une taxation nationale des géants du numérique qui s'appliquera au 1er janvier.
Mais sur quelle base?
Cette année, sur la base du chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'on prendra tout le chiffre d'affaires qu'a fait Google, Facebook, Amazon, Google sur
monde
sur la France. Et nous taxerons le chiffre d'affaires que ces entreprises auront fait en France. Mais pour autant, je ne baisse pas les bras pour une solution européenne.
Bruno,
et j'aimerais,
Le Maire,
oui. J'aimerais que mes collègues européens et que les autres gouvernements qui hésitent encore, ils ne sont plus très nombreux, comprennent que ce qui se joue, c'est la conception que l'on a de l'Europe. Est-ce que l'Europe est souveraine? Est-ce qu'elle est capable d'être forte et puissante et d'imposer la même taxation aux géants du numérique que celle qu'elle impose à ses propres entreprises? Je souhaite que d'ici le mois de mars de cette année, c'est-à-dire d'ici deux mois, nous ayons l'unanimité à 27, que les 27 États membres, pour la première fois depuis des années sur une question fiscale, soient capables de se mettre d'accord.
Parce qu'il faut l'unanimité.
Parce que l'unanimité est nécessaire.
Qu'elle n'existe pas aujourd'hui.
Et soient capables d'adopter la taxation
des
géants du numérique.
Ça fait des mois.
Quel
est votre espoir d'y arriver au mois de mars? Ça fait des mois, vous en parlez. Même l'Allemagne ne vous suit plus pour préserver son industrie automobile.
C'est pas une question d'espoir, c'est une question de volonté et de détermination. Ma détermination à obtenir au mois de mars prochain l'unanimité des 27 sur une juste taxation des géants du numérique, elle est totale.
Mais quelles sont vos chances d'y arriver? Pour l'instant, la France est obligée d'y aller toute seule. Il n'y a guère que l'Autriche qui la suive.
Mais nous n'y allons pas seuls. Aujourd'hui, il reste 3 ou 4 États qui sont encore hostiles à cette taxation européenne des géants du numérique. Nous avons réussi à trouver
un
accord avec l'Allemagne. Parce que je souhaite être certain que dès le 1er janvier 2019, il y aura bien une taxation des géants du numérique. Mais je ne renonce pas à ce qu'il y ait une solution européenne. Et je vais vous dire, j'en tire une conséquence très simple. L'unanimité en matière fiscale, c'est pas la bonne solution. Et si nous voulons que l'Europe soit capable d'être forte, d'être souveraine, de peser face à la Chine et face aux États-Unis, ce qui est tout de même le grand enjeu de l'année 2019 et des années à venir. Il faut que un plus grand nombre de décisions soient prises à la majorité, majorité qualifiée ou majorité simple, pour que nous puissions avancer. Si on veut demain une politique industrielle, pour avoir des géants industriels face aux géants chinois ou américains, il faut que nous soyons capables de décider beaucoup plus vite que nous ne le faisons aujourd'hui.
Et quel est le poids de la voix de la France aujourd'hui en Europe pour faire bouger les règles? On sait que vous avez longtemps répété que notre capacité à tenir nos engagements budgétaires, c'était ça, la confiance des Européens. Et bien là, on va les dépasser, la France va arriver à 100% de dette. Est-ce qu'aujourd'hui, la voix de la France, la voix de Paris, n'a pas perdu beaucoup de poids?
Nous respectons nos engagements européens. Et si je me bats avec autant de force pour que nous réduisions notre dépense publique, que les finances publiques soient bien tenues, c'est d'abord parce que c'est l'intérêt des Français. Et qu'on voit bien depuis des années qu'on a eu beau dépenser de plus en plus d'argent public, approcher les 100% de dette publique, ça n'a pas amélioré la situation des Français. Donc je le fais d'abord pour les Français, mais respecter nos engagements européens du point de vue budgétaire, c'est aussi garder notre crédibilité politique. Et nous respecterons en 2019, comme en 2018, comme en 2017, nos engagements budgétaires européens pour avoir cette crédibilité politique.
On retourne au standard, Bruno Le Maire, pour retrouver Denis. Bonjour Denis.
Oui, bonjour.
Vous avez une question pour le ministre de l'économie.
Oui, tout à fait. Bonjour Monsieur Le Maire, bonjour. Monsieur le ministre. Voilà, plus ou moins une remarque plus qu'une question. Donc je suis inscrit comme demandeur d'emploi depuis fin 2014. Et le paradoxe dans ce pays, c'est que je fais partie de ceux qui attendent de recevoir une offre, pourquoi pas, hein, mais je n'attends pas la maison, je travaille majoritairement en tant qu'intérimaire, mais n'ai jamais reçu une offre depuis mon inscription. Et j'ai une autre question, plus ou moins...
Laissez d'abord Bruno Le Maire répondre à cette première question très forte. Que répondez-vous
d'abord,
à Denis ?
Est-ce que je peux vous demander dans quel domaine vous travaillez et avec quelle qualification ? Parce que de toute façon, je le redis, hein, le contrôle tel qu'il est mis en place, il concerne les gens qui ne cherchent pas un emploi ou qui ont abandonné la recherche d'emploi pour les inciter à nouveau s'inscrire à Pôle emploi. C'est pas du tout votre cas, donc vous n'êtes pas concerné par ces nouvelles règles. Mais dans quel secteur de travail est-ce que vous êtes ?
Dans le bâtiment, je suis électricien.
Et donc, Bruno Le Maire ?
Mais je suis surpris que vous ne trouviez pas d'emploi parce que je vois de l'autre côté... Beaucoup de PME,
pas de l'autre côté
bâtiment.
De la rue. Enfin, je fais les choses de manière un peu facilement, mais ne reprenez pas quand même le discours du président de la République.
Je vois du côté des entrepreneurs, du bâtiment, des travaux publics, un nombre d'entreprises très important qui cherchent justement ce type de qualification.
On va devoir en rester là malheureusement. On a l'impression à lire Paul, qui paraît donc chez Gallimard, Bruno Le Maire, d'un livre... assez mélancolique, un livre d'un homme qui est censé être un homme d'action, mais qui préfère se réfugier dans les arts, dans la musique, dans la lecture. On vous sent pas dévoré par la passion politique, comme si vous ne croyez pas que la politique pouvait changer la vie. C'est un sentiment de lecteur.
Non, vous vous trompez, mais la politique, c'est pas une passion, c'est un engagement. Un engagement de tous les instants. Ce livre a été écrit pendant mes vacances d'été, pas sur mes horaires de travail, je tiens à le préciser, parce que j'ai vu que parfois certains se posaient la question, mais chacun fait ce qu'il veut de ses vacances d'été.
Au moins,
j'écris. J'écris un livre, mais mon engagement est total. Ma détermination à changer les choses, elle est absolument totale. Moi, je crois dans la noblesse et dans l'efficacité de l'engagement politique. Mais je mesure aussi de plus en plus que nous ne sommes efficaces que par notre capacité à convaincre.
Merci infiniment d'avoir été l'invité de France Inter ce matin. Bruno Le Maire, Paul, une amitié, c'est donc le récit que vous publiez chez Gallimard.